Le journal est présenté par Léandre Berret.
Bonjour, un incendie spectaculaire a touché ce matin l'ancien aérodrome de Courtedoux. Les pompiers ont été alertés vers 9h20 suite à un fort dégagement de fumée sur le site Brandrutin. Le feu a été maîtrisé, mais les dégâts sont complets pour les locaux attenants. Le Jura s'affiche sur la scène fédérale. Elisabeth Baumschneider a été placée hier sur le ticket socialiste pour remplacer Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Avec ce choix, c'est aussi le canton qui est mis en avant. Si proche et en même temps si loin, c'est comme cela que l'on pourrait parler de la défaite du HC Ajoie à Bienne hier soir dans le derby de l'Arc Jurassien. Le HCA s'est incliné 4-0 contre son voisin Célandais en National League dans un match toutefois serré. Les dernières grisailles vont se dissiper sur la région. Le soleil devrait être de la partie cet après-midi avant un retour des nuages. Il fera frais en bas et doux sur les hauteurs. Un dégagement de fumée impressionnant a été aperçu en Ajoie ce matin. Il partait du site de l'ancien aérodrome de Courtedoux. Les locaux en bois attenant au restaurant ont pris feu. L'alerte a été donnée vers 9h20 au centre de renfort de Porrentruy et au SIS Haute-Ajoie Centre, qui ont encore appelé le SIS Calabri en renfort. Le feu a été maîtrisé, mais les locaux ont été totalement détruits. Ils contenaient les archives de l'aéroclub, des dortoirs, heureusement vides, et un club de danse espagnole. Nicolas Dobler, commandant du centre de renfort de Porrentruy, explique comment s'est déroulée l'intervention des pompiers.
Quand on est arrivé sur place, on avait un bâtiment en ossature bois qui fumait par tous les côtés. Donc notre but principal était concentré sur que le feu ne passe pas sur le bâtiment adjacent.
Quelle a été l'une des ou la grande difficulté de cette intervention ?
La grande difficulté, elle est clairement dans l'approvisionnement en eau qui est inexistant sur le site. Donc on a dû faire des navettes avec nos véhicules, plus avec les agriculteurs de la région pour nous alimenter en eau. On a alimenté depuis les étangs de la 16, on a alimenté depuis la ferme biogaz qui est juste en face et aussi depuis le village de Courtedoux, c'est qu'on a pompé sur la réserve incendie.
Et Nicolas Dobler répondait à Cyprien Lovy, le dispositif était important, 40 pompiers au total et 12 véhicules ont été mobilisés. Les cartons du cœur touchés par la solidarité et l'inflation. La grosse journée de ramassage a eu lieu hier dans le Jura. Le président des cartons du cœur, section de l'Émont, a fait ce constat en fin de journée. Vendredi déjà, on a reçu la moitié moins que les autres années. David Berthoud estime aussi que la grosse journée de ramassage d'hier a permis de moins remplir les cartons que d'ordinaire. La faute à l'inflation alors que les demandes augmentent. Toutefois, les gens ont donné, même si c'était moins, précise-t-il. L'équivalent de 2 mois de livraison ont pu être stockés. Il est toujours possible de faire des dons dans les petits commerces du canton jusqu'au 20 décembre. La frontière se transforme en ligne de partage entre Boncourt et Del. Une équipe d'anthropologues et d'artistes ont présenté hier soir à l'école primaire de Boncourt un théâtre interactif qui interroge les dynamiques à l'œuvre d'un côté et l'autre de la frontière. Depuis l'année passée, ils partent à la rencontre des habitants de l'Arc Jurassien pour récolter expériences et ressentis. Pour ce travail, l'équipe a interrogé des femmes infirmières et aides-soignantes des deux villages. Hélène Hertz, ethnologue à l'université de Neuchâtel, explique ce que ça apporte de mêler science et art.
Nous avons voulu mêler science et art pour créer un spectacle qui permet de réfléchir sur les relations transfrontalières dans cette région. L'idée étant que, à travers l'art, la musique, la vidéo, on arrive souvent mieux à faire passer un message scientifique à travers un article dans une revue. Nous avons mené une petite étude semblable à Morteau-le-Locle et ça a rassemblé des gens, c'était très intéressant. On voit la diversité des expériences de la frontière, pour beaucoup de gens c'est une ressource. C'est ça qui est ressorti de nos études, c'est que pour beaucoup de gens, cette frontière est une manière de vivre particulière.
Quelle identité commune se crée à travers une frontière comme ici, entre Boncourt et Del, par exemple?
C'est en partie une identité commune, mais c'est une identité commune faite du fait qu'on sait jouer avec ces catégories. Donc on sait faire des blagues, ah oui, la française, elle se la ramène, etc. Et c'est un lien, ces blagues, ces petits stéréotypes, quand ils sont bien maniés, c'est un lien entre les gens. Et ça les distingue de ceux qui ne vivent pas sur la frontière, ils ne connaissent pas cette dynamique. Par contre, c'est clair que les stéréotypes, quand ils sont lancés méchamment, ça fait mal.
Un sujet à retrouver sur rfj.ch. Duel à Moutier, les citoyens se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire le dernier maire de la cité prévotoise sous administration bernoise. Candidat des partis autonomistes, le maire actuel Marcel Winisterfer est donné favori face à son adversaire antiséparatiste Francis Pélaton. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Une Baloise et une Jurassienne de 60 et 58 ans composent le ticket officiel socialiste pour succéder à Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Le groupe parlementaire socialiste a désigné hier à Berne, après 3 tours de scrutin, Eva Herzog et Elisabeth Baumschneider avec 24 et 23 voix. La bernoise Evia Lehmann, pourtant en tête au deuxième tour, a ensuite été lâchée et éliminée. Une jurassienne candidate officielle au Conseil fédéral, c'est une première pour le dernier né des cantons suisses. Jean-François Roth avait été candidat mais hors ticket en 1998. Pour Elisabeth Bonschneider, cette étiquette jurassienne a pu être un atout.
Peut-être pour certains, oui, enfin, j'espère. Parce que moi, j'ai une étiquette jurassienne que je revendique haut et fort. Mais j'ai aussi dit un peu en souriant que ce n'est pas un concours de beauté entre les cantons. C'est vraiment ce qu'on représente. Et si j'ai la chance maintenant d'être candidate jurassienne, c'est parce que j'ai été au gouvernement avec des collègues avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. C'est grâce à Claude Hesch, c'est grâce à Jean-François Roth, avec qui d'ailleurs on a combattu avant que j'arrive au gouvernement jurassien. Et après, c'est aussi cette grande proximité avec Charles Juillard. En fait, oui, je ne crois pas que j'ai eu des mauvais contacts avec mes collègues au gouvernement.
Le Parti socialiste jurassien a communiqué hier avoir pris connaissance avec joie et fierté du choix d'Elisabeth Bonschneider sur le ticket socialiste. Sa présidente Katia Lehmann était à Berne pour suivre cette décision. Et pour elle, c'est aussi le canton qui peut se réjouir.
C'est un grand jour pour le canton du Jura malgré tout. Et puis que j'espère bien qu'effectivement tout le canton sera... Enfin, je trouve que jusqu'à maintenant, ça a déjà montré quand même une belle image de notre région, de nos compétences. Et puis c'est vrai que ça fait aussi, c'est aussi porteur pour toute la région, quoi. Même si elle se veut effectivement une candidate pour la Suisse et pas seulement pour le Jura. Mais c'est vrai que ne boudons pas notre plaisir.
En décidant de lancer Eva Herzog et Elisabeth Bonschneider dans la course au Conseil fédéral, le groupe socialiste est en phase avec sa base. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'Institut Sotomo auprès d'environ 12 000 électeurs sur mandat du Sonntagsblick. 59% se sont prononcés en faveur de la Baloise et 54% pour la Jurassienne. Le sondage montre encore qu'Eva Herzog est la favorite du peuple et de tous les camps politiques. Les candidates du PS doivent convaincre maintenant les autres groupes parlementaires. Les auditions commencent la semaine prochaine. L'élection des successeurs de Simonetta Sommaruga et Uli Maurer au Conseil fédéral aura lieu le 7 décembre. Des protestations contre les confinements ont éclaté ce matin à l'aube à Shanghai. La colère monte en Chine contre la draconienne politique de zéro Covid pratiquée par le gouvernement depuis près de 3 ans. Une vidéo largement diffusée sur Internet montre certains protestateurs crier Xi Jinping démission et s'en prendre aussi au Parti communiste chinois. Une rare démonstration d'hostilité contre le président et le régime dans la capitale économique du pays.
On va parler sport, il est 12h22.
Sport.
Le HC Bien éteint, le HC a joué dans le derby de l'Arc Jurassien en National League, Loïc Georgier.
Les hockeyeurs à Joulon ont perdu contre les Célandais 4-0 hier à la Tissot Arena. Jesper Olofsson a ouvert la marque en tout début de rencontre, mais le HC a rapidement relevé la tête et aurait pu égaliser avec un peu plus de réalisme et de justesse. Le tournant du match est intervenu à la mi-match. Damien Brunner a doublé la mise après plusieurs séquences chaudes dans la zone défensive biennoise. Ce 2-0 agit comme un coup de massue pour les Jurassiens qui ont encore capitulé à 2 reprises. La réaction du défenseur ajoulot, Anthony Rouillet.
Je pense qu'on était un peu court dans nos jeux offensifs. On a hésité à mettre le puck au goal plus d'une fois. Et puis eux, ils ont un repli défensif qui est très, très axé sur le puck. Donc dès qu'on arrête, dès qu'on se retourne, dès qu'on hésite, il y a tout de suite 2 ou 3 gars qui sont sur nous. Et puis ça, on l'avait pourtant vu à la vidéo. On avait dit qu'on voulait bouger le puck en zone offensive, qu'on voulait vraiment mettre le puck sur le goal. Et puis aujourd'hui, on a failli parce qu'on n'a pas respecté le plan de jeu. Et puis c'est ça qui est encore plus frustrant en dehors de la défaite.
Vous le dites, on a vu un HCA hésiter, notamment en zone offensive par moment. C'est dû aussi à une forme de manque de confiance avec cette spirale de défaite.
Alors la confiance, je sais pas, je pense pas que ce soit un manque, c'est plutôt qu'on a pas souvent le puck. Puis c'est vrai que des fois, comme j'ai dit, on hésite à faire ces jeux alors qu'on est capable. On est capable de mettre un peu plus de pression en zone offensive. Dès qu'on hésite, il y a ce repli défensif de Bienne qui nous a assommé aujourd'hui et qui nous a fait très mal.
Des propos recueillis par Michel Léoni. Au classement de National League, le HCA est dernier avec 9 points de retard sur Langnau. L'équipe qui le précède, il défie Kloten mardi. Et du hockey sur glace, il y en avait aussi hier aux échelons inférieurs. Le HC Franche-Montagne a signé une deuxième victoire de rang. Les hockeyeurs Ténions se sont imposés contre Bullard 2-1 devant leur public en My Hockey League. Avec cette victoire, les Ténions figurent provisoirement à l'avant-dernière place du classement avec 4 points de retard sur le 8e rang. Et en première ligue, le HC de Léman-Vallée a pris l'eau. Les Vadais ont été giflés par Forward Morges 7-1. Une défaite qui consolide leur place de lanterne rouge à 7 longueurs de la 10e place. Et du côté de la deuxième ligue, le HC Vandelincourt renoue avec la victoire en s'imposant contre le Locle 5-2. Victoire qui permet aux Ajouleux de ne compter plus qu'une longueur de retard sur le top 4. De son côté, la réserve du HC Franche-Montagne prend du retard après sa défaite contre Star Chaux-de-Fonds 3-2. 4 points la séparent de la 4e place. Un début de saison en dents de scie pour le FC Basse-Cour. Les hommes de l'Ulzimouchi ont terminé leur première partie de saison en première ligue de football hier par une défaite à Schütz 1-0. Au final, ils figurent au 8e rang du classement à 7 points de la zone de relégation. Au moment de tirer le bilan de cette première partie de saison, le directeur technique Fabrice Ribaud s'est montré un peu sceptique.
Il y a un petit peu de déception par rapport au bilan de ce premier tour. Au niveau des points, peut-être qu'il nous manque 4-5 points. Il nous manque aussi également quelques buts marqués. Je reprenais encore les statistiques de la saison dernière. À Noël, on avait marqué 30 buts, puis cette année, on en a marqué 20. Donc, il y a un petit peu de déception, puis un petit peu de frustration. On est au milieu du classement, on est dans le ventre mou, on est éloigné un petit peu quand même de la zone de relégation, ce qui reste quand même l'objectif, hein, c'est le maintien en Première Ligue. C'est vrai qu'on n'est pas dans un état... je dirais, de redressement absolument nécessaire. Mais on doit corriger certains éléments, en particulier offensifs. Et puis cette réflexion-là, elle doit se faire tranquillement à tête reposée. Mais je pense que déjà, la première chose, c'est de bien récupérer puis de bien souffler, parce que la saison a été longue, l'année 2022 a été longue. On a eu une courte pause estivale avec peut-être 10 jours maximum de congé. On a un effectif qui a besoin de respirer, un petit peu de souffler. Et puis on va aussi profiter de ça pour réfléchir sur la suite.
Le championnat de Première Ligue reprendra ses droits le 26 février prochain. Et en deuxième Ligue interrégionale, le FC Courtetel est champion d'automne. Titre symbolique confirmé grâce à sa victoire contre Fribourg 3-1. 4 points le séparent du deuxième. De son côté, le FC Agen-Montéry fait partie de ses poursuivants à 9 points précisément, notamment grâce à sa victoire d'hier contre Châtel-Saint-Denis 1-0. Évidemment, on joue en ce moment même au Qatar. Dans le groupe E de la Coupe du Monde, le Japon tente de faire un pas de plus en huitième de finale. Mais pour cela, il va falloir battre le Costa Rica qui se dresse devant lui actuellement. C'est 0-0 alors qu'on joue plus ou moins la 70e minute de jeu. L'autre rencontre de ce groupe, c'est le choc de ces matchs de poule. L'Allemagne va vouloir se ressaisir face à l'Espagne qui a brillé lors du premier match. Début de cette rencontre à 20h. Mais avant cela, deux rencontres sont au programme dans le groupe F. La Belgique pourrait valider son ticket pour les huitièmes de finale si elle s'impose contre le Maroc à 14h. Et la Croatie pourrait anéantir tout espoir de qualification canadien en cas de victoire à 17h. Le volleyball Franche-Montagne s'est imposé au bout du suspense hier. Les Tenyons ont remporté leur duel à Genève 3-2 hier soir dans le cadre du championnat de Liga. Après avoir perdu le premier set 25-22, elles ont remporté les deux suivants 25-21 et 25-19. Elles ont ensuite été nettement distancées dans la quatrième manche 25-15 avant de gagner le set décisif 16-14. Avec cette victoire, les Tenyons se placent au sixième rang du classement à 12 points du leader. La Ragout Berami signe sa 35e victoire en Coupe du Monde. La skieuse tessinoise a remporté le géant de Killington hier soir aux États-Unis. Elle a devancé l'Italienne Marta Bassino de 7 centièmes et la Suédoise Sarah Hector de 20 centièmes. Parfaitement posée sur ses lattes, la Suissesse a dompté une piste qui ne lui a jamais vraiment convenu par le passé, la Ragout Berami.
C'est vrai, c'est une piste que où par le passé j'ai toujours eu un peu de problème. C'est assez plat, il faut réussir vraiment à produire de la vitesse. Et j'ai jamais trouvé vraiment la clé. Et en plus, oui, aujourd'hui, des conditions particulières. Le vent, où j'ai toujours eu un peu de problème à avoir du feeling quand il y a du vent, je ne sens pas vraiment mes pieds. Et puis, de tracés très différents. Le premier qui tournait beaucoup, en général, voilà aussi, ce n'est pas vraiment les conditions que je préfère. Et donc, je suis contente d'avoir réussi à bien skier, peu importe si c'était plus vite comme le deuxième tracé, si ça tournait. J'ai réussi à produire du bon ski et c'est cool.
Et les dames auront droit à un slalom encore aujourd'hui à 16h15 et toujours en Amérique du Nord, mais cette fois-ci au Canada. Marc Odermatt a pris la troisième place de la descente de Lake Louise hier soir. Il a échoué à 10 centièmes du vainqueur norvégien Alexander Kilde. L'Autrichien Daniel Emmetsberger s'est glissé entre les deux hommes. Marc Odermatt a donc manqué pour un dixième sa première victoire en descente. Une petite frustration tout de même pour le Nidwaldien.
Bien sûr, si tu es derrière seulement 10 centièmes, tu veux gagner aussi, c'est clair. Mais oui, un podium, c'est super. Et Alex, il fait une très bonne manche aussi. Alors, il déserve la victoire. J'étais un peu plus vite à haut, il est un peu plus vite à bas, c'est ça.
Des propos recueillis par nos confrères de Ski Actu. Et pour terminer ce week-end, les hommes ont encore un super G au programme ce soir à 20h30, heure suisse. En attendant, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée.